Bienvenue dans Soif de sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Pour continuer cette série d'épisodes bonus pendant l'été sur la quête de sens, aujourd'hui, je vous raconte ma dépression écolo et mon histoire avec l'éco-anxiété. Avec d'abord pourquoi je suis tombé en dépression pendant un an, puis comment j'ai remonté la pente. Parce qu'il y a des millions de personnes qui souffrent d'éco-anxiété, voire d'éco-dépression. Et c'est bien compréhensible vu qu'on est en train de détruire la vie sur Terre. Peut-être que toi aussi, le futur t'angoisse. Alors j'espère que cet épisode te fera du bien et que tu te sentiras moins seul. Au départ, il s'agit de deux vidéos YouTube que je vous ai mises bout à bout dans ce podcast bonus. Et voilà, c'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur. On parle de santé mentale. En tout cas, c'est certainement un des épisodes où je suis le plus vulnérable. Donc voilà, que vous soyez super heureux ou au fond du trou, et ben je vous fais un gros câlin. Bonne écoute, ciao!
J'ai beaucoup hésité à vous en parler, mais l'année dernière, j'ai fait une dépression écolo, une éco-dépression, à cause de l'effondrement et de l'urgence climatique. J'ai envie de vous partager cette histoire parce que y a des millions de personnes qui souffrent d'éco-anxiété, voire d'éco-dépression. Je sais qu'il y en a parmi vous. Alors j'espère que ça vous aidera à vous sentir moins seul, à libérer la parole sur ce sujet dont on parle encore assez peu, ou à mieux comprendre la situation s'il y a un de vos proches qui traverse ça en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon éco-dépression elle a commencé, comment ça a affecté mon quotidien, et un peu les trois vagues de choc à retardement que peut provoquer l'effondrement. Donc je lance une série de vidéos sur la quête de sens dans un monde qui s'effondre, sur l'éco-dépression, sur notre addiction à l'effondrement, et ce qui m'a aidé à aller mieux et qui peut aussi t'aider à aller mieux. Si tu cherches des moyens d'agir face à l'éco-anxiété ou l'éco-dépression, ce sera pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de cette série et j'ai plus envie de me focaliser sur l'éco-dépression en soi. Les moyens d'agir face à ça, ce sera pour les prochaines vidéos, ok? Alors je ne vais pas rappeler ce que c'est l'effondrement de notre civilisation, je t'en ai déjà parlé dans une playlist et dans cette vidéo que je te mets juste ici. Là, ça va plus être du partage d'expériences personnelles. Effectivement, j'ai beaucoup hésité à vous en parler, parce que la quête de sens, c'est un peu l'ADN de mes livres « Changer le monde en deux heures » et de cette chaîne YouTube. Et en même temps, j'avais besoin de me protéger. J'avais pas envie d'avoir une pression supplémentaire deux mois plus tard. Alors, ça y est, ça va mieux ? Non, en fait. Et surtout, j'avais pas encore quelque chose de constructif à vous apporter à l'époque. Moi, je fais une vidéo que si je considère que j'ai vraiment quelque chose d'utile et de pédagogique à vous apporter, quoi. Maintenant, c'est le cas, donc c'est le bon moment. Avant de commencer, je voudrais parler du choix des mots. Il y a 50 degrés de dépression différentes. Je trouve que c'est un mot fourre-tout qu'on utilise à tout va, alors que les formes les plus graves sont une maladie très sérieuse. Et donc l'éco-dépression, ça peut aller des insomnies aux crises d'angoisse et de panique à avoir des pensées suicidaires. Donc j'en suis pas là, mais je prends pas ce mot à la légère non plus. Ce que j'essaie de dire, c'est que le but, c'est pas de faire un concours de qui va le plus mal. Non, le but, c'est d'inclure tout le monde, de s'adresser à tout le monde, de l'éco-anxiété la plus simple jusqu'à la dépression la plus aiguë qui touche beaucoup moins de monde. En tout cas, si tu te sens concerné, vraiment, n'hésite pas à en parler à ton médecin ou à aller voir un psy ou un psychiatre. Moi, je suis pas expert de la santé mentale, donc c'est vraiment le premier truc à faire que je te conseille. Alors, quand est-ce que ça a commencé, cette dépression ? C'est dur parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop plombante, en même temps c'est un sujet grave, et en même temps je trouve ça important de savoir l'aborder avec légèreté. Bref, excusez-moi si des fois mon intonation est un peu à côté. En gros, 2019, c'était la deuxième pire année de ma vie. La pire, c'était ma première dépression. Donc au moins, tu vois, c'était moins pire, quoi. Il y a du mieux, ça s'améliore. L'élément déclencheur, c'est un livre que m'a offert mon frérot à Noël, Manuel de transition de Rob Hopkins. Ça a l'air d'être un livre tout mignon sur la transition, la permaculture, que dalle. Je t'en avais parlé, je t'avais fait un résumé que je te mets juste ici si tu veux le voir, je vais pas revenir dessus, mais il est fou ce livre. Donc ça, c'est l'élément déclencheur, mais en gros, très concrètement comme symptôme, en quelques semaines, il y avait quasiment plus rien qui m'apportait de la joie, quoi. De l'extérieur, c'était la même vie qu'avant, quoi. Mais à l'intérieur, c'est genre un filtre gris qui recouvre tout. J'avais envie de rien. C'était un cauchemar de se lever le matin. Le moindre truc te demande un effort, mais monumental. Et je trouvais de moins en moins de sens, notamment dans mon taf que j'adore pourtant, quoi. Mais là, j'avais zéro énergie. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais perdu espoir. J'avais perdu espoir dans le futur. Que j'étais tellement flippé de l'avenir à cause de l'effondrement que j'arrivais plus à me projeter. Ou alors, j'étais obligé de me projeter à des horizons de plus en plus courts, quoi. J'arrivais pas à imaginer que je puisse être heureux dans un monde post-effondrement. Et ça, bah, c'est violent. Et en même temps, c'est normal, quoi. La société m'a jamais appris ça, quoi. J'ai jamais envisagé que d'ici quelques années, ça puisse devenir vraiment plus compliqué de se nourrir, de se loger, de se chauffer, de se déplacer en France, quoi. J'avais jamais envisagé sérieusement la possibilité qu'on détruise la vie sur Terre. En fait, j'avais jamais envisagé que le futur serait autant hors de contrôle. Bah, ça faisait beaucoup d'un coup quand même, hein. Alors, courageusement, j'ai fui. J'ai fui dans les séries Netflix, dans la bouffe, dans Candy Crush, en dormant. En fait, c'était les seuls endroits où j'arrivais vraiment à débrancher mon cerveau qui devenait toxique. D'où les vidéos sur la méditation et la dernière que je viens de te faire sur le pouvoir du moment présent, que je te conseille juste là. Bon, je simplifie, hein. J'ai fait aussi plein de trucs bah, beaucoup plus constructifs et matures, on va dire, pour me remettre en question et essayer de trouver des moyens d'agir face à ça. Mais ça, je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Ce que je trouvais dingue, c'était de me dire que le monde n'avait pas fondamentalement changé en 10 jours, tu vois. Ni dans ma vie, ni en France, ni dans le monde. Enfin, c'était le même monde, quoi. Et pourtant, tout s'est effondré. C'est d'abord un effondrement psychologique. Ma vision du monde a complètement changé parce que mon ancienne vision bah, collait pas du tout avec la réalité du monde, quoi. Donc il y a un moment, le fossé il est tellement grand que ça craque. Je fais pas très bien le bruit du craquage. Et tu remets tout en question. Et j'étais un raz-de-marée d'émotions permanent. Genre, ça partait en live tout le temps. J'étais en colère. Je me disais, mais quelle espèce est assez conne pour non seulement s'autodétruire, mais détruire le reste du vivant avec elle, en aussi peu de temps. Et en le sachant en plus, j'avais peur de tout. Peur de l'avenir, peur de la mort, peur de pas avoir assez de ressources pour me nourrir et nourrir des gens que j'aime, pour me déplacer, pour me soigner. Peur que ça dégénère en loi du plus fort, avec un état autoritaire. Peur de faire des enfants, etc. J'ai réalisé que j'avais aucune compétence dans un monde qui s'effondre. De compétences vraiment utiles, j'entends. En matière d'autonomie, j'ai pas encore, en tout cas, de compétences en agriculture, en électricité, en médecine, etc. Je pleurais souvent, comme ça, à des moments inattendus. Dans la rue, dans la douche, genre, n'importe quand. J'étais là, oh, petit corps, là, oh, préviens-moi au moins, tu vois. T'as aussi un aspect schizophrénique, à avoir cette nouvelle lecture du monde et à voir à quel point on fonce dans le mur, encore plus que ce que tu croyais. Et à côté, de voir le monde qui continue comme avant, les gens qui marchent normalement dans la rue, qui vont au travail, etc. Et ça rend fou. Et puis tu t'arrêtes 2 secondes et tu te dis, attends, mais toi aussi, t'es en train de continuer ta vie comme avant. Donc par-dessus, moi, je me rajoutais une bonne dose de jugement et de culpabilité, que j'en faisais pas assez, etc. Bah oui, Pierre, pourquoi t'es pas capable de changer du jour au lendemain? Bref, c'était un gros bordel de sentiments, mélangés principalement bah, d'anxiété. Et de bah, à quoi bon en fait? Et je pense que si c'était aussi violent, en le décomposant avec un peu de recul, c'est parce que il y a eu un peu 3 vagues de choc à retardement. La première vague de choc face à l'effondrement, c'est l'effondrement en soi. Se dire qu'on est en train de détruire la vie sur Terre à vitesse grand V et que notre civilisation est en train de s'effondrer et qu'on va devoir réinventer un truc complètement grandement différent, oui, c'est déjà une info assez traumatisante. Mais derrière, ça a amené 2 autres trucs. Le deuxième choc, c'est petit à petit de commencer à comprendre très concrètement comment ça va affecter ton quotidien. Parce qu'au début, c'est une menace un peu macro, et après, tu commences à percuter en fait. Ah, comment est-ce que ça va changer ma vie et celle des gens que j'aime? Est-ce qu'on va être séparés avec ma famille? Est-ce qu'on pourra communiquer facilement ou se déplacer facilement? Est-ce que je vais devoir déménager? Ou plutôt quand? Est-ce que je vais devoir changer de métier? Et enfin, encore plus subtil, un peu derrière, tu vois. Il y a une troisième onde de choc, une troisième vague liée à l'effondrement que tu te prends dans la gueule, mais qui est plus vicieuse. C'est une remise en question perso. De se dire, attends, mais quel rôle je veux jouer dans ce nouveau contexte, en fait? Dans un monde qui s'effondre? Quelle est ma place? Donc là, je vous le fais en soft, et forcément, je simplifie un peu. Mais voilà, cette année a été vraiment hardcore. Donc big up à toi si tu es en train de traverser ça, vraiment. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin selon toi. Et si tu retiens un truc de cette vidéo, bah j'espère que tu retiendras que c'est le fait que t'es pas seul. Les prochaines vidéos seront plus joyeuses avec comment je m'en suis globalement sorti et potentiellement toi aussi. Et surtout comment apprendre à vivre petit à petit avec la fin de ce monde et le début d'un nouveau. Ciao! Maintenant que tu sais pourquoi j'ai fait une dépression écolo, je vais te raconter comment j'ai calmé mon éco-anxiété grâce à 5 moments forts de mon année qui m'ont aidé à aller mieux, de mon coming out sur l'effondrement à ma famille jusqu'à un déclic grâce à Justin Bieber. Donc début 2019, je me renseigne enfin sérieusement sur l'effondrement de notre civilisation et au fil des semaines, je trouve que plus rien n'a de sens. Je deviens très anxieux et ça se transforme en dépression écolo. Si tu veux les détails, je t'ai tout raconté dans la vidéo précédente si tu veux la voir. Mais je sais très bien que pour combattre cette éco-anxiété, il y a des choses qui doivent changer dans ma vie et que ça va pas changer tout seul. Donc février dernier, le premier truc que je fais, c'est de ralentir. Je lève le pied au taf, et j'essaie de recharger mes batteries. Le deuxième truc que je fais, c'est d'en parler. Je fais des vidéos sur ma chaîne, je rejoins des groupes Facebook comme la Collapso Heureuse et surtout, j'en parle à ma famille. Et jusque-là, en dehors de mes potes militants, pour moi, l'effondrement, c'est encore assez tabou et secret. Et du coup, c'est encore un sujet assez lourd et pesant, justement, parce que on n'en parle pas, quoi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de faire mon coming out sur l'effondrement. Alors voilà, j'ai pas le moral parce que je crois que notre civilisation est en train de s'effondrer. Et à ma grande surprise, il y a eu quelques fails, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Certains avaient déjà entendu parler d'effondrement, d'autres pas du tout. La fin du monde. Mais globalement, j'ai une chance de malade d'avoir des proches bienveillants avec qui on peut discuter et qui prennent soin de moi, quoi. Franchement, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Avec l'effondrement, une de mes peurs, c'est de pas savoir où je vais vivre dans 20 ans, quoi. Et j'en parle avec ma sœur et elle me dit, au pire, on habitera tous ensemble, je sais pas où, à la campagne, quoi. J'étais là, ah ouais. Ça me rassure à ce moment-là d'avoir un scénario où je peux me projeter dans le futur. Toutes ces discussions de coming out sur l'effondrement avec mes proches, elles se sont étalées sur un an grosso modo au fil des occasions. Mais en fait, très vite, dès mars-avril, je suis là, ok, c'est bien d'en parler, mais ça résout pas le problème. Parler d'éco-anxiété et d'effondrement de manière permanente, en fait, tu peux vite t'auto-entretenir dans ta déprime, quoi. C'est pas parce que tu parles de ta douleur que tu fais le travail pour guérir. C'est marrant, hier, je suis tombé sur un texte des youtubeurs de Yes Theory que j'adore et qu'il formule encore mieux. Fais gaffe parce que partager ses peurs, c'est plus facile que de les affronter. En parler, c'est que la première étape. Et il y a un moment, c'est l'action qui te permet d'avancer, pas la discussion. Donc je me dis, ok, très bien, très concrètement, ma vie a perdu beaucoup de sens à mes yeux. Comment est-ce que je retrouve du sens? Et je sais très bien depuis le début que l'enjeu, la clé pour que je retrouve du sens à long terme, c'est ma quête de sens professionnel, c'est YouTube. Il va falloir que je change des choses sur cette chaîne YouTube. Donc cette remise en question, ça c'est un truc qui a duré un an, et qui est pas fini, et dont vous allez voir le résultat bientôt, avec un nouveau format de vidéo. Mais pour revenir en avril, à ce moment-là, quand je commence cette quête de sens professionnel, je suis en galère totale, je suis en PLS. Je comprends vite que identifier ma mission de vie et retrouver du sens dans mon travail, ça va pas se faire en deux-deux, quoi. Et qu'en attendant, la priorité, c'est ma santé mentale à court terme. Et donc ma priorité, ça devient de retrouver de l'énergie. Quand t'es au fond du trou, tu la joues Marie Kondo, vraiment, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Alors, pas l'effondrement en tout cas, ça, c'est assez clair. Ok, prends tes distances quelques temps avec tout ce qui parle d'effondrement autour de toi sur les réseaux sociaux, tes lectures, etc. Au début, je me réfugie dans du divertissement facile qui m'apporte quand même un peu de joie. Le poker, Game of Thrones, la Casa de Papel, le chocolat, je prenais tout. Hein. Mais ça reste solitaire. Après, ça devient plus constructif. Après, je peux dire que j'en ai fait, des escape games, des après-midi jeux de société, que je suis allé voir des conférences, que j'ai fait des balades. En fait, tout ce qui peut éviter à mon cerveau de broyer du noir, je prends. Et en septembre, je sais que la rentrée, c'est un moment important pour façonner ton environnement de l'année, et donc je me botte le cul. T'as pas envie de sortir? Tu sors quand même. Je me remets au sport, je fais du squash. Mais le squash, les gens, c'est la vie. C'est trop bien! Je rentre dans une chorale, on chante Imagine Dragons. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Pour écouter la suite, il faudra écouter mon EP. Je vais courir. Bon, ok, j'y suis allé 3 fois. Je prends le vélo plutôt que le métro. Je vois un magnétiseur, un psy. Encore une fois, si vous souffrez d'éco-anxiété ou d'éco-dépression, vraiment, parlez-en à votre médecin et allez voir un psy. Pendant toute cette année, j'ai vachement peur. J'ai peur de l'effondrement en général, j'ai peur de faire des enfants, j'ai peur de rester déprimé toute ma vie, etc. Mais c'est plein de peurs un peu floues qui se mélangent et abstraites, quoi. Et je comprends que le flou nourrit la peur. Alors je me dis, ok, je vais isoler ces peurs, les clarifier une par une et les affronter. J'affronte ma peur d'un effondrement brutal. À force de me renseigner, je réalise que l'effondrement, ce sera beaucoup plus un effritement de notre civilisation, une dégradation progressive de notre condition de vie et des services publics, plutôt que un effondrement brutal et soudain et généralisé. Non. Alors à l'échelle de l'humanité, ça risque d'être rapide, mais beaucoup moins à l'échelle de notre vie. Ensuite, j'affronte ma peur de faire des enfants. Je suis toujours pas sûr de vouloir des enfants, mais là je me demande, est-ce que je souhaite à quelqu'un en fait de naître dans ce monde qui est en train de se casser la gueule. Et de peut-être avoir une vie plus compliquée, j'en sais rien, tu vois, de mourir prématurément, etc. Et je me suis pris beaucoup la tête sur ce sujet, jusqu'à avoir une très belle discussion avec ma copine, qui me dit, en fait, cet enfant, tu vois, même s'il avait que 15 ans à vivre, ce serait 15 ans remplis d'amour, quoi. Donc oui, j'étais là. T'as raison, en fait. Et enfin, 3, j'affronte ma peur de rester déprimé toute ma vie. Ce qui m'aide pendant toute cette année de dépression écolo, c'est de savoir que j'ai déjà fait une dépression, j'en suis déjà sorti en fait. Donc, je l'ai déjà fait, je sais que je peux le refaire. Et même, c'est grâce à cette première dépression que j'ai lancé mes bouquins, que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Donc en fait, c'est un des meilleurs trucs qui me soit arrivé. Alors, je me le rappelle régulièrement parce que j'ai tendance à l'oublier. Et je me dis aussi que je le fais pour vous et pour aider d'autres personnes qui traversent ça. Et ça me donne de la force pour avancer. Et en creusant ma petite peur là, je me rends compte qu'en fait derrière ma peur de rester déprimé, il y a une autre peur en fait. Il y a une peur de me faire larguer par ma chérie. Parce que c'est ce qui est arrivé pendant ma première dépression. Et un soir du coup, j'ose en parler à ma chérie qui me dit « oui, ça me rend triste que t'ailles mal ». Mais ça fait partie de la vie d'un couple, quoi, quand tu restes longtemps ensemble. Et tant que toi, t'es debout et que t'avances et que t'essaies des trucs pour aller mieux, je me fais aucun souci, quoi. Et c'est con, mais de savoir que t'es aimé aussi quand t'es au plus bas, ça t'enlève un poids énorme. Oui, je sais, elle est parfaite. Jusqu'à ce matin de janvier. Comme je déprime souvent pendant cette année-là au réveil, notamment sous la douche, je décide de mettre de la musique qui donne la patate un peu pour contrer ce cerveau qui broie du noir. Et ce matin-là, je mets « I don't care when I'm with my baby, yeah ». Et je commence à danser devant mon miroir et je m'éclate, quoi. Et là, je sens un peu l'émotion qui monte de plus en plus. Et à un moment, la chanson, ça fait « ouh, 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 ouh ». Et moi, je me vois dans le miroir, c'est ridicule. Et du coup, je suis mort de rire. Et en même temps, je fonds en larmes. Parce que je suis pris, en fait, par la beauté de cet instant où je suis en train de faire le clown et je suis plein de vie. Et en même temps, ça contraste de ouf avec toute cette année où j'en ai chié de malade. Et en fait, je pleure de joie. Et à ce moment-là, je sais que là, tout de suite, ma dépression écolo vient de finir. Alors c'est pas tout rose non plus, je fais toujours un peu d'éco-anxiété probablement, il faudra encore des efforts, de la patience, etc. Mais j'ai de nouveau de la joie. Ce jour-là, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, si tu veux. C'est comme si mon cerveau, il avait de nouveau accès à certaines zones qui étaient inaccessibles depuis, à savoir la joie, l'enthousiasme, l'excitation. Tout pesait une tonne avant, au quotidien, le moindre truc. Et là, je me sens trop léger. Et surtout, c'est un truc important pour vous, je m'y attendais, mais pas du tout. Ça faisait un an que je faisais 1000 trucs pour que ça aille mieux et que j'avais l'impression que ça marchait pas. J'avais l'impression de faire du surplace, voire de reculer, et là, boum. Et je me suis rappelé une phrase de mon amie Hélène qui m'avait dit pendant ma première dépression, peut-être qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça aille mieux. Je pense qu'elle sait même pas que cette phrase me suit depuis des années, du coup, dans les moments durs. Ça pour te dire que c'est pas parce que t'as l'impression que tu fais pas de progrès que t'en fais pas. C'est pas toujours visible. Et le fait d'aller mieux, c'est pas linéaire. C'est pour ça que tant que t'es en mouvement, tant que t'essaies des trucs pour aller mieux, bah pour moi, le temps, c'est vraiment ton allié numéro un contre l'éco-anxiété. Alors, personne n'aime entendre ça, soyons clairs. C'est ce qu'on dit après une rupture amoureuse. Oui, ça ira mieux avec le temps. Et toi, t'as juste envie de lui mettre une bonne droite. Tu crois pas à la personne. Tu crois que tu seras mal toute ta vie. Et pourtant, même si ça fait chier, bah, ils ont raison. T'as déjà vécu une rupture amoureuse, toi-même, tu sais. Mon papa, il dit souvent, tu sais, Pierre, tout passe. Sous-entendu, les trucs négatifs comme les trucs positifs. Alors oui, t'es en train de vivre un moment difficile, mais c'est un chapitre de ta vie. C'est pas toute ta vie. Et pour moi, avec l'éco-anxiété, c'est pareil. Le temps, en fait, ça t'aide à t'adapter. Ça veut pas dire que le monde peut pas partir en cacahuète. Ça veut dire que maintenant, l'effondrement, ça fait partie de ta vision du monde. Et que ça t'empêche pas d'être heureux et de t'engager. Et au contraire, dans les commentaires de la dernière vidéo, bah, pour certains d'entre vous, la réponse à l'effondrement, ça a été de déménager à la campagne, de changer de job, de faire plein d'actions de désobéissance civile. Et ça vous rend plus heureux. En un an, beaucoup de choses ont changé. L'état du monde a continué à empirer. Et en même temps, il y a une vague de révolte contre ce système qui détruit le vivant. Soit les gilets jaunes, Extinction Rébellion, le féminisme, la grève générale contre la réforme des retraites, etc. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais voir tout ça, l'essor de Thinkerview, Partager c'est sympa et mille autres initiatives hyper inspirantes, moi ça me redonne vachement d'espoir. Des fois, t'as peut-être l'impression de porter le poids du monde sur tes épaules et tu dois lâcher prise. Et quand tu relèves les yeux, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se battent à tes côtés et qu'on est de plus en plus nombreux. Je vous aime, à mercredi prochain.